Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, à nouveau en compagnie de Michel de Rivoire. Bonjour Michel.
Bonjour Sébastien.
Alors une chronique du Pays Toulousain qui, comme je l'ai indiqué la fois précédente, va s'inscrire dans toute une évocation de l'Ancien Régime, Toulouse sous l'Ancien Régime, ses familles, ses lieux, et on a commencé avec Michel une série sur les élites toulousaines, ces familles nobles, donc une famille et puis un ou des lieux, un ou des patrimoines, urbains ou ruraux, qu'on va évoquer au fil de ces chroniques, des dynamiques d'ascension sociale, d'enrichissement, et puis peut-être aussi de stratégie matrimoniale, de déclin aussi, d'appauvrissement, comme la vie va pour tout le monde, j'allais dire. Voilà.
La roue va tourner,
voilà. Donc Michel, aujourd'hui, on va aborder une famille en particulier, la famille... Le Mazuyer, alors qui est Le Mazuyer et puis aussi où va-t-elle s'ancrer ?
Et voilà, c'est l'ancrage. Donc l'intérêt de ces visites que nous allons faire à chaque fois, c'est à partir de lieux plus ou moins connus. Certains n'existent plus, mais ils parlent à la mémoire collective, ou à partir de personnages comme le président Le Mazuyer, donc un parlementaire, c'est de mettre en lumière à chaque fois, avec des exemples concrets, ces stratégies dont tu viens de parler. Alors, de quoi concrètement s'agit-il ? En fait, c'est bien foncier, donc ils sont l'illustration de la réussite sociale du XVIIe au XIXe siècle.
Ils sont de quelle nature c'est bien foncier ?
Et oui, alors quand on est dans la ville de Toulouse, beaucoup plus rarement Montauban, Albi, bon, c'est un autre sujet, mais ce sont les hôtels particuliers, bien évidemment. Alors, dans le temps, c'est essentiellement des hôtels construits par des capitouls. Je rappelle la formule... en occitan, de grande noblesse à prendre titole, qui des Tolosa es capitol. Bon, ce qui signifie qu'il faut montrer sa noblesse par une tour capitulaire qui elle-même surmonte le plus souvent un escalier comme celui de l'hôtel du Mai, mais qui n'a pas sa tour capitulaire. Ouais. C'est pas un hôtel particulier de capitoul. Mais voilà. Et à partir du XVIe siècle, les parlementaires vont racheter des parcelles, agrandir et vouloir imiter les grandes demeures d'Île-de-France, pour ne pas dire parisiennes, et vont se mettre à créer de vastes cours entourées de bâtiments. Donc, ces hôtels particuliers, j'allais dire classiques, hein, au XVIIe siècle, vont être le nouveau modèle des châteaux en dehors de Toulouse. C'est-à-dire qu'on va oublier... Là, on va s'intéresser à Châteaufort, là, dans notre émission d'aujourd'hui. Mais le modèle du château, il faut bien que nos auditeurs en soient conscients, le modèle château toulousain n'est plus le château à Tours, ou à Machicoulis et à Yadouve et à Pont-Levis, qu'on rencontre bâti en pierre à 50 et au-delà, 50 km de Toulouse. Pourquoi ? Parce que la brique est un matériau à la fois fragile, mais facile également à réemployer. Mmh. Voilà. Donc le château de Plaisance, surtout après la relative paix qui suit les troubles des guerres de religion, va permettre de dupliquer le modèle, je crois que c'est vraiment ça, les exemples, on les verra dans le temps, dupliquer le modèle de l'hôtel particulier, la cour en U, si vous voulez, avec un portail d'accès, dans la campagne, hein, je pense en parlant de ce modèle, au château de Pinsaguel, qui en est l'illustration, toute fin 17e, début 18e siècle. Bon. Mais il y a aussi des vieux manoirs branlants, absolument pas entretenus, lorsqu'on s'écarte un petit peu, et le seul témoignage qui soit vraiment debout et pas trop loin de Toulouse, c'est le château de Saint-Simon, c'est-à-dire Candie, le château fort, hein, oui, qui relevait du domaine royal. Donc, pas oublier que toutes ces propriétés rurales avaient besoin de vivre, avaient besoin de revenus, de droits seigneuriaux, enfin toute la panoplie qu'on avait évoquée dans la première émission. Et ces maisons rustiques ferment, bordent, hein, mais aussi fondations d'hobbits, parce qu'il ne faut pas oublier que la religion tient une place essentielle, centrale dans la vie des patries de cette élite. Et il faut acheter son, pour faire court, il faut acheter son salut en aidant, ce qu'on appelle la fondation d'Hobbit, des œuvres religieuses ou laïques, mais en tout cas rurales.
Ou financer des messes,
voilà, ouais. Être le mécène, le protecteur d'ordre religieux. Très bien. Tous ces magnifiques édifices, avec la plupart du temps des architectes, des maçons, on n'aura peut-être pas toujours le temps de nommer, mais enfin, il faut savoir que souvent ce sont des corporations qui sont à l'origine des constructions, et elles transmettent leur savoir-faire. Eh bien, ce sont aussi, c'est le contenant de magnifiques décors, mais aussi de maçons, tailleurs de pierre, draps, vêtements, ameublements, carrosses, sellerie, tout ce qui fait vivre aujourd'hui, je dirais,
un artisanat.
Un artisanat, absolument.
Les corps de métier.
Voilà. Donc, on a toute une population urbaine, mais aussi rurale, qui peut vivre de son travail. N'oublions pas la domesticité, qui est un nombreuse, qui remplit les rôles ingrats. Mais tout ça, c'est des descriptions, il faut avoir en tête lorsqu'on va évoquer ces demeures. Voilà. Après,
et toute une litanie de métayers, de fermiers, oui, d'ouvriers agricoles.
Voilà,
aussi.
Métayers, c'est la moitié de la récolte tout de même, ouais. Mais aussi des redevances. Oui. Donc des vexations sur le plan individuel, mais des vies finalement assez tranquilles parce que le seigneur ne va pratiquement jamais, quelques semaines l'été à la belle saison et au moment de la Saint-Martin pour toucher les redevances.
Oui.
Mais le métayer a souvent la bride sur le cou. Et parfois, les régisseurs, quand il s'agit de très grands domaines, font un peu ce qu'ils veulent et on le verra, rachètent souvent les domaines lorsque la famille d'origine déroge ou n'a plus les moyens d'entretenir la propriété.
Et donc, on verra que cette élite vit pour partie en ville et pour partie dans ces domaines, justement.
Voilà, mais essentiellement, elle est occupée aux affaires du Parlement et des affaires de la province. Donc, une obsession pour ces élites, c'est de transmettre le patrimoine familial, voilà, à sa propre descendance. Même si soi-même on n'a pas été, on n'a pas eu tous les avantages, il faut que le fils, le mâle, hein, et après lui garde le nom et la propriété, le nom avec la propriété. Vous savez que le nom est rajouté, le nom de la seigneurie est rajouté au nom roturier le plus souvent, même si le roi s'y est opposé en disant non, on va vérifier ça. Si le nom de la seigneurie est bien dans de toute antiquité, et le plus souvent, il y a des usurpations.
Il va y avoir des grandes enquêtes sous Louis XIV, voilà. Notamment pour faire du nettoyage.
Voilà, avec M. de Bazin, l'intendant de la province. Voilà. Voilà. Mais ça nous entraînerait bien loin. Alors, on va prendre un exemple.
Oui.
Le Mazuyer. Alors, le Mazuyer, ça ne doit pas dire grand-chose à nos auditeurs.
Ah, moi non
et
plus.
Et pourtant. Bon. En fait, c'est un parlementaire qui lui-même fils, il s'appelle Henri Mazuyer, il vit au XVIIe siècle au milieu, et il rachète un château fort dont on a sous les yeux, Sébastien et moi, l'image. Mais
qu'on tâchera de mettre sur le site internet de l'émission.
Tout à fait, et peut-être même, qui sait, dans l'OTA, et un numéro futur, et qui appartenait, qui avait été fondé par une famille de noblesse de chevalerie, la famille de Faudoas. Et donc ce château fort de Montaigu-sur-Save, que vous pouvez certainement situer dans la vallée de la Save, en allant de Merville vers Cadour. Donc c'est une famille qui tient son château. On imagine un grand donjon avec un corps de bâtiment assez simple. Monsieur habite à gauche, madame à droite, à l'étage noble. Les pièces de service sont plutôt au rez-de-chaussée ou en sous-sol demi-enterré. Et on voit des tours un peu partout. On en voit quatre sur la gravure qui est sous nos yeux. Donc c'est quelque chose de très médiéval et qui était assez reproduit. Donc, une fonction militaire, ça c'est certain, mais on voit bien à la faveur du 16e, 17e, cette période charnière, ça ne correspond plus au mode de vie. Et même si on fait de très jolis mariages, chez les Faudoas, on trouve une grand-mère de Richelieu, un sénéchal, puis un comte de Mauléon-Couserans, eh bien la famille ne peut pas tenir le domaine et le vend en 1678 à cet Henri Mazuyer, parlementaire. Alors il faut s'intéresser à à son père,
oui.
Qui lui-même s'appelle Gilles. Et ce Gilles, le Mazuyer, C'est un nom d'origine picarde. Sa mère était savoyarde. Et c'est lui qui est notre homme intéressant, illustrant ces fabricants de patrimoine patricien. Ce personnage non, n'est pas toulousain, mais par son habileté politique, il a été nommé par Henri IV et il se retrouve à Toulouse avec une certaine fortune et surtout des lettres de créance. Et sa fille, plus exactement sa femme, va épouser la femme du président de Clary. Voilà.
Président du Parlement, donc.
Tout à fait début 17e, et qui est l'auteur de l'Hôtel de Pierre, donc que tout le monde situe rue de la Dalbade, avec cette jolie façade ordonnancée.
Ouais.
Donc il épouse la fille de ce président de Clary, il en devient donc le gendre, mais surtout il va reprendre la position de premier président dès 1615, et on le considère comme étant le Toulousain le plus important et le mieux payé de son temps. À son passif, ou plus exactement, l'histoire a retenu que, en tant que premier président du Parlement, il a prononcé l'arrêt de mort contre Vanini en 1619, qui a été célèbres, oui. Et hélas, victimes de l'intolérance, du fanatisme.
Dont on parlera probablement dans une chronique durant cette saison.
Voilà. Donc son nom, tout prestigieux qu'il soit de ce temps-là, est attaché à ce drame, à cette injustice-là.
Donc pour finir, est-ce qu'il est rattaché à un hôtel particulier à Toulouse ?
Alors justement, il va pouvoir créer un hôtel que les Toulousains d'un certain âge, mais peut-être d'autres aussi, connaissent sous le nom de Les Jardins d'Arcadie. Parce que l'hôtel Le Mazuyer, créé dans les années 1620, 75 fenêtres, je crois, enfin, c'est une très très grosse parcelle qui domine la Garonnette, rue de la Dalbade. Cet hôtel a été repris par les visitants dignes juste après la Révolution. Elle-même avait été chassée du couvent de la Visitation qu'on pourrait situer aujourd'hui sous le magasin, enfin à l'emplacement du magasin Primark, l'ancien magasin du Capitole, et ça avait été une prison sous la Révolution. Et donc les visitants dignes reviennent par la fenêtre, j'allais dire, en 1818. Elles sont tout le 19e siècle et une grande partie du 20e. Et lorsqu'elles quittent les lieux dans les années 1980, Pierre de Gorce, donc de notre association Les Toulousains de Toulouse, va, comme souvent, reprendre son bâton de pèlerin pour défendre et proposer le classement de l'hôtel Le Mazuyer. Et il sera finalement conservé et transformé en résidence de personnes âgées, qui est assez connue à Toulouse aujourd'hui. Voilà.
Eh bien, merci pour cette évocation.
On pourrait dire beaucoup d'autres choses, évidemment.
Alors, une prochaine fois, on va poursuivre avec d'autres personnages. Merci.
Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir.